Nous allons pouvoir méditer quelques instants la parole de Dieu. Alors vous le savez, l'Église, ce n'est pas seulement un bâtiment, bien que c'est bien utile pour nous rassembler. L'Église, ce n'est pas seulement une organisation, bien qu'il faut être bien organisé, que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. L'Église, c'est un organisme vivant dont Jésus-Christ est la tête et dont nous sommes les membres. Dans la Bible, il y a beaucoup d'images qui nous parlent de l'Église. Elles sont là pour notre instruction. On trouve, par exemple, l'Église est une fiancée. Jésus-Christ est son fiancé. L'Église est une épouse. Elle est l'épouse de Christ. L'Église est le corps de Christ. Il est la tête, nous sommes les membres, bien sûr. L'Église est un troupeau de brebis. Jésus marche devant elle, gloire au Seigneur. Et puis, ben, par exemple, je ne sais pas, la vigne aussi, la pensée de la vigne, il est le cep, nous sommes les sarments. Il y a aussi la pensée, bien sûr, d'une armée qui combat avec un merveilleux général en chef. Mais l'Église est aussi une famille. Et nous sommes les enfants de Dieu, par la grâce de Dieu. Alors, je vous propose une lecture dans l'Évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 12. Un passage que nous connaissons bien, verset 46. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Amen. Dans notre texte, nous voyons qu'il s'agit de la création, en quelque sorte, d'une famille nouvelle, la famille de Dieu, la famille spirituel. Et vous remarquerez que dans la famille spirituelle, on est tous au même niveau. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Dans la famille de Dieu, il y a un seul père. Il n'y a pas de père. Il y a un seul père. Malachie 6, 2, 10 pose la question, n'avons-nous pas tous un seul père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et dans Jean 27, Jésus peut dire, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. J'aime bien cette parole. Amen. Bon, j'aime bien la parole en général. Mais celle-là, amen, vers mon Père et votre Père. Quelle assurance pour nous, amen, gloire au Seigneur. Notre Père est rempli d'amour et de compassion. Nous le savons bien, ce qui n'enlève rien à sa parfaite sainteté, ce qui n'enlève rien à sa parfaite justice, ce qui n'enlève rien à ses perfections divines. Il nous aime d'un amour paternel et il nous aime d'un amour maternel. Celui qui a créé l'homme et la femme, comment n'aurait-il pas un amour qui soit complet, parfait ? Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous voyons bien sûr que Ésaïe, par exemple, 49, 14, Sion disait, vous connaissez ce passage, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça nous arrive ça quelquefois, non? On a l'impression d'être un peu oublié. Hein, mais le Seigneur ne nous oublie pas, hein, ça n'existe pas. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Je ne t'oublierai point même. Hein? Voici, je t'ai gravé sur mes mains. J'ai gravé ton nom sur mes mains. C'est quand même une parole extraordinaire. Le Seigneur ne nous oubliera jamais. Amen. Amen. Nous sommes ses enfants. et il veille sur nous jour après jour. Gloire à notre Seigneur. Le psalmiste l'avait bien compris, c'est au psaume 131. Il peut dire, j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Amen. Il avait compris que Dieu était capable de manifester un amour maternel aussi. Mais c'est vrai, comment l'être humain pécheur peut-il s'approcher d'un Dieu si merveilleux, si parfait, dans toutes ses voies, un Dieu rempli d'amour, rempli de douceur, de sensibilité, de miséricorde. Mais les séraphins devant lui, vous le savez, on le lit dans Ésaïe 6:3, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. » Rendez compte, comment nous, pécheurs, on est imparfaits encore, même si par la grâce de Dieu on a fait quelques progrès. Comment pourrions-nous nous approcher? Comment ne pourrions-nous nous approcher du Père? Eh bien, par Jésus, bien sûr. Il n'y a pas d'autre chemin, le Seigneur l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors moi, pendant un temps, je me suis aperçu qu'il m'arrivait de citer la première partie de ce verset. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et quelquefois, j'ai oublié de dire la suite. Ah ben, pas bien ça. Je me suis rendu compte quand même que la suite elle avait une importance capitale. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Alors il y a un seul intermédiaire de communication, c'est Jésus. 1 Timothée 2,5 nous dit il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus. Alors Jésus nous a enseigné à prier, il nous a enseigné à prier le Père, vous remarquerez, hein, dans Matthieu 6, voici comment vous devez prier notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Bon, vous connaissez très bien sûr, ce texte. Un autre texte, par exemple, dans Jean 15, 16, hein, où Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Quel merveilleux Seigneur on a. Nous pouvons prier dans le nom de Jésus afin que ce que nous demandons, il nous le donne. Nous avons besoin de mettre souvent notre foi en action. Alors à ceux qui vivent l'Évangile, la parole de Dieu, c'est dans Galates 3:26, dit « Vous êtes tous fils de Dieu », elle précise « par la foi en Jésus-Christ ». Par la foi en Jésus-Christ. Hein? Vous avez, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Et dans la racine grecque de revêtu, il y a la pensée d'être entré en Christ. D'être entré en Christ. Alors, je suis en lui, et il est en moi. C'est l'unité spirituelle, c'est une nouvelle dimension dans la famille de Dieu. Nous sommes tous fils et filles de Dieu, nous avons un même Père, nous avons des frères et sœurs, nous avons un grand frère, Jésus, nous sommes une famille, la famille de Dieu. Cette famille a un grand frère qui est notre modèle, il est notre modèle parfait. Nous voyons dans 2 Corinthiens 3:18 un passage bien connu qui dit « Nous tous que le visage... » Nous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et c'est vrai que ce verbe contempler, la signification de contempler pour refléter, hein, c'est davantage, seulement ça ne s'arrête pas à la contemplation, c'est la pensée de contempler le Seigneur pour pouvoir le refléter dans ce monde de ténèbres. On pourrait bien sûr imagée en prenant l'image du soleil et de la lune, quoi, bon, la lune qui reflète le soleil. Nous sommes appelés à refléter Jésus dans ce... Je crois que nous le savons. Et c'est pas une mince tâche, hein, non ? Hein, c'est pas notre nature qui doit apparaître. Ça serait mieux qu'elle n'apparaisse pas trop. Que ce soit Jésus qui apparaisse, bien sûr. Nous recevons l'image de Jésus et nous la reflétons dans la mesure où nous contemplons le Seigneur. Nous pouvons le contempler dans la parole de Dieu. C'est Pascal a pu dire Jésus que les deux testaments regardent. L'ancien comme son attente, le nouveau comme son modèle, les deux comme leur centre. Jésus est partout dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'en être pleinement conscients, nous avons besoin de contempler Jésus même dans l'Ancien Testament, et nous avons besoin de contempler Jésus dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu. Et pour pouvoir, c'est vrai, refléter ce divin caractère du Seigneur, il faut aussi nous être engagés dans le chemin du renoncement à nous-mêmes pour pouvoir réellement manifester le caractère du Seigneur. Jean-Baptiste pouvait dire il faut qu'il croisse, premièrement, bien sûr, et que je diminue. C'est dans la mesure, bien sûr, où Jésus va prendre la place en nous que nous allons pouvoir diminuer et mourir à nous-mêmes, avancer dans le renoncement à nous-mêmes. Vivre pour soi, vous savez, ce n'est qu'exister, on le sait bien. Vivre pour Christ, c'est la vraie vie. C'est la vie éternelle qui nous est offerte. Alors on pourrait dire quelques mots sur l'esprit de famille, qui est plus, bien sûr, qu'une simple vertu familiale, qui est une personne divine, qui est le consolateur, le conducteur, on pourrait dire, de la famille, l'aide de la famille, qui nous aide, bien sûr, dans la prière, qui nous aide dans notre vie journalière. Jésus a dit en parlant de l'action du Saint-Esprit, c'est dans Jean 16, 14, « Il me glorifiera, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Il, en quelque sorte, il vous le communiquera. Et c'est vrai que la mission première du Saint-Esprit, c'est d'abord de glorifier Jésus. N'oublions jamais. Et c'est aussi, bien sûr, de nous aider dans notre chemin, de nous donner la force d'aller jusqu'au but. Alors, il ne faut jamais oublier, c'est que l'esprit est d'une très grande sensibilité. Certains l'ont on dit, c'est un gentleman. Alors, on peut facilement l'attrister quand on pêche d'une manière ou d'une autre. On peut facilement éteindre son action. Il se retire là où il n'est pas désiré, là où il n'a pas la place qui lui appartient. Alors la famille, elle a des réunions de famille. C'est une grande joie, je crois, pour les parents, quand ils peuvent rassembler leurs enfants. Je suis joyeux aujourd'hui. C'est une grâce de Dieu, hein ? Non ? C'est vrai. On voit que nos enfants s'aiment, on voit qu'ils s'encouragent, ils sont capables de se consoler, peut-être même quelquefois de se reprendre en toute affection, hein, avec affection fraternelle. Mais les parents pleurent. Quand leurs enfants se font la tête, quand ils s'ignorent, quand ils se détestent. Seigneur Jésus a pu dire à un moment donné, c'est dans Jean 15, 12, c'est ici mon commandement. Ah oui, sous la grâce. Vous voyez, hein? C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comment ? Comme je vous ai aimé. Moi, je suis quelquefois un peu chiffonné, hein, excusez-moi. Mais quand j'entends les chrétiens qui citent constamment le commandement légal, est-ce qu'on oublie le commandement du Seigneur ? Est-ce que ça nous arrive de l'oublier ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, bien sûr, c'est bien. Mais, comme toi-même, la loi. Et Jésus dit, comme je vous ai aimé. Oh, on connaît bien sûr Jean 3,16. Tout le monde, bien sûr, peut pratiquement le citer. Mais il y a un Jean 3,16 qui nous donne cette dimension. Hein. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà. C'est la dimension de l'amour dans la grâce, de la manifestation d'amour entre les frères et les sœurs. Voilà. Et souvent, peut-être, nous avons tendance à l'oublier. La loi dit « comme toi-même », Jésus dit « comme je vous aimais ». Vous vous rendez compte, la marche, elle est haute, non? Pas l'impression? Alors, il y a un repas de famille, un mémorial institué par le Seigneur Jésus. Un moment solennel, nous prenons le pain et le vin en discernant le corps du Seigneur. Nous le prenons en communion avec le Seigneur et en communion avec nos frères et nos sœurs. Hein. Ah oui, il ne faut pas l'oublier ça. Hein, eux aussi sont le corps du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 17, puisqu'il y a un seul pain. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le chrétien aujourd'hui, en 2021 quand même, il est appelé à lever les yeux. Parce que le repas des noces de l'agneau, il est tout proche. Où toute la famille de Dieu va être réunie. Alléluia. Quel jour glorieux, quel jour merveilleux. Attendez, parce que sur la terre, on est tous dispersés, tous réunis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si on se rend bien compte. Seigneur réunira toute la famille. Il y a bien des événements qui nous montrent que tout cela s'approche, ou que tout cela est très proche même. Alors quelqu'un pourrait demander, mais comment on entre dans la famille de Dieu? Comment on entre dans cette famille? Ben d'abord, on pourrait dire comme dans une famille naturelle, par la naissance, bien sûr. Nicodème, vous savez, est venu trouver Jésus de nuit, et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, hein, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. On ne peut pas naître seulement par le moyen d'un rite, d'une cérémonie religieuse, c'est impossible. Il faut un acte créateur du Saint-Esprit. Et comment ça se passe? Ben, à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute de la parole de Dieu, et par l'action du Saint-Esprit, les cœurs sont touchés. L'homme, la femme réalise qu'il est un pécheur, il réalise le poids de son péché, et comme il n'a pas d'autre solution, il se jette en quelque sorte dans les bras du Seigneur. Pardon Seigneur, j'ai péché contre toi. Ah oui. Et la joie du ciel descend à son cœur. Parce que le sang de Christ est passé sur sa vie, tous ses péchés en un instant sont effacés. Le sang de Christ les a lavés. Dieu ne s'en souvient plus. Quelle merveille! Quelle merveille! Gloire au Seigneur. Et bien sûr, notre esprit, qui était en état de mort à cause du péché, nous ne pouvions pas avoir communié avec Dieu qui est esprit, revient à la vie. Gloire au Seigneur. Et nous devenons réellement, c'est vrai, des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit amène à la lumière et à la vie un être nouveau avec un esprit vivant capable de communier avec son Seigneur, avec son Créateur. Et sa foi nouvelle, elle va le conduire jusqu'au baptême. Par l'obéissance de la foi, on va rentrer dans la famille de Dieu. Jésus l'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est une grande joie pour la famille, hein, quand quelqu'un s'engage dans les eaux du baptême en promettant fidélité au Seigneur, quand il confesse sa foi. Alors ce qui est gênant, c'est que dans le verbe croire, certains ont mis quelquefois n'importe quoi. On peut se poser quand même la question, qu'est-ce que Jésus a mis dans le verbe croire? Je crois qu'il a mis d'abord croire ce qu'il est, le Fils de Dieu venu en chair, croire en sa divinité. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés, le Seigneur l'a dit. Hein. Alors, bien sûr, croire en ce qu'il a fait. Il s'est offert lui-même. Personne ne lui a pris la vie. Il s'est offert lui-même sur la croix. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier devant le Père. Et troisièmement, croire en ce qu'il a dit, croire en son enseignement. Croire en son enseignement, c'est le vivre. Pas seulement croire qu'il a dit ça, mais qu'il a dit toutes ces choses, mais les vivre, les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Excusez-moi un instant parce que je vais ravitailler. Avec les années, quelquefois, on arrive à des pannes de salive. Alors, nous entrons dans la famille, car Jésus lui-même nous y introduit en nous appelant frères. Car celui qui sanctifie, ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. C'est Hébreux 2, 11. Est-ce qu'on pourrait avoir honte, nous, de témoigner de Jésus, de notre Seigneur? Oh ben non, alors. Gloire au Seigneur. Nous sommes tous fils d'un seul et même Père. Nous avons pour frère le Saint, le Parfait. En Jésus, nous avons accès à ce que notre Père nous offre, la vie éternelle, l'héritage des saints dans la lumière. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Mais quelle gloire pour la famille d'avoir un frère tel que Jésus. Quelle gloire pour la famille. Vous savez, dans la famille, les plus jeunes, quelquefois, ils sont très fiers de leur grand frère. Bon, il est fort, il peut les défendre. Et ils sont en admiration, quelquefois. Ils peuvent, bien sûr, les grands frères, les secourir. Alors, nous avons quelques caractéristiques de la famille. Nous sommes une famille par le sang. Eh oui. Dieu a voulu une nouvelle alliance et c'est le sang de Christ qui a scellé cette nouvelle alliance. Christ est mort pour notre châtiment. La mort nous parle de châtiment. Le sang nous parle de vie. Le sang nous parle de vie, d'alliance de vie. Et nous nous approchons du Père, introduit par le Fils. C'est alors que le trône de Dieu n'est plus le trône du jugement, mais il est le trône de la grâce. Il est le trône de la grâce, et c'est quelque chose de merveilleux. Nous voyons dans Hébreux 2, 13, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donné. » Seigneur, parle ainsi, « Me voici. » Il nous introduit. Alors, il a été traduit, ce passage-là, au lieu d'enfant, il a été traduit avec les fils de mon sang. C'est exact, hein, finalement. Avec les fils de mon sang. Sang de Jésus est passé. Nous avons les liens du sang. Le voile a été déchiré, gloire au Seigneur. Le sacrifice de Jésus a été agréé. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint et nous approcher du trône de la grâce, nous pouvons entrer dans la présence du Père. C'est Hébreux 19 qui dit ainsi donc frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Et la parole de Dieu dit, approchons-nous. Est-ce que nous approchons? Est-ce que nous sommes assez près? Moi je crois que le Seigneur nous veut plus près. Approchons-nous avec un cœur sincère, un cœur vrai, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Seigneur, notre Dieu veut nous introduire dans la présence du Père, mais il veut que nous approchions davantage. Nous sommes encore trop loin ce matin, nous avons encore des progrès à faire, et c'est notre bonheur présent et notre bonheur éternel que nous approcher du Père et nous approcher de Dieu. La famille de Dieu est une famille, on pourrait dire, de sang royal. Un Pierre de neuf, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une sacrificature royale, hein, une nation sainte, un peuple acquis, afin que... J'aime bien les afin que quand même. C'est intéressant, parce que ça nous donne la raison, afin que nous vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alors, nous sommes une famille royale qui va régner avec Christ. Vous le savez, vous allez régner avec Christ, c'est écrit, hein. C'est pas des bêtises, hein. C'est écrit dans la parole de Dieu, hein. Alors la famille royale de France, vous savez qu'elle a été frappée par la loi de l'exil. C'était en 1886, le 22 juin 1886, sous la Troisième République. Et ce n'est qu'en 1950 que la loi a été abolie. La famille de France avait été obligée de prendre l'exil. Le comte de Paris, le prince Henri de France, est né en 1933 en Belgique. Eh oui, bien sûr. Et ce n'est qu'en 1953 qu'il s'est installé à Paris. Il était le prétendant au trône de France. Il était l'héritier direct du roi Louis-Philippe qui a régné de 1830 à 1848, mais il est décédé en 2010. Par contre, aujourd'hui, vous savez qu'il y a Jean d'Orléans, le comte de Paris, il y a aussi Louis de Bourbon, le duc d'Anjou, qui sont prétendants au trône de France. Mais bon, on est en République. Hein. On est en République. La famille de Dieu, la famille de sang royal est en exil sur cette terre. Elle est en exil sur cette terre. Notre famille a une patrie qui est céleste. Nous attendons la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors je crois que c'est quand même bon quand le monde commence à réaliser que les enfants de Dieu sont des nobles, dans le bon sens du terme. Ah oui, hein, c'est bon ça. Ésaïe 32,8. Celui qui est noble forme de nobles desseins, et il persévère dans ses nobles desseins. Voilà. Et nous avons une certaine aspect de la noblesse qui est celle de vérifier dans les Écritures si ce qu'on nous enseigne, si ce qu'on entend est exact. Et vous avez le droit ce matin, au contraire, vous êtes noble si vous avez à cœur de vérifier que ce qui vous est annoncé est exact. C'est ce qui se passait avec les gens de Béret. Hein, il est écrit des sentiments nobles. Ils vérifiaient, ils examinaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était exact. Alors, nous sommes aussi une famille d'adorateurs. C'est vrai que l'admiration excessive pour l'être humain, c'est l'idolâtrie, finalement. C'est l'idolâtrie, l'admiration excessive pour les stars, les vedettes de ce monde, et même l'admiration excessive pour certains hommes de Dieu. Ça peut devenir une certaine forme d'idolâtrie, hein. Il faut veiller. Il faut veiller. Alors, la fin quand même de la première épître de Jean nous intrigue. les derniers mots de cette épître. Vous savez, d'un seul coup, l'apôtre, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles !» Ça vient comme des cheveux sur de la soupe, qu'est-ce que c'est ça? Moi, je crois que c'est très important. S'il l'a écrit, si Jean, inspiré par l'Esprit, a pu écrire ces choses, c'est parce que, certainement, il était conscient d'un grand danger. Alors, même s'ils sont pas aujourd'hui d'or, d'argent, de pierre, de bois, il y a toutes sortes d'idoles en 2021. Bien sûr, on va pas faire l'inventaire, là, mais ça a commencé par soi-même. Certains sont vraiment... Leur idole, c'est eux-mêmes, ils sont narcissiques et, bon, même celui peut-être même qui va louer le Seigneur en recherchant qu'un plaisir personnel, c'est une forme d'idolâtrie, celui qui va rechercher qu'une émotion intérieure, bah oui. Jean 4, 24, vous connaissez par cœur, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le vrai adorateur n'adore pas avec sa chair, c'est-à-dire son corps et son âme seulement, il adore en esprit. Dieu est esprit. Il faut que, en quelque sorte, l'adorateur soit en harmonie avec l'objet de son adoration. Et le vrai adorateur, je vais vous dire, il a un feu intérieur. C'est pas possible, il ne peut pas adorer s'il n'y a pas de feu à l'intérieur. Et dans l'ancienne alliance, comment ça se passait? Il y avait les charbons ardents. Mais s'il n'y avait pas de charbon ardent, comment voulez-vous que le parfum puisse monter, s'exhaler? Ce n'était pas possible. Alors, dans nos cœurs, c'est pareil. S'il y a du feu, et s'il y a du feu intérieur, je crois que notre Seigneur, notre Dieu, va être glorifié, va être adoré. Le vrai adorateur a un feu intérieur. Il a le sceau de la vérité, de l'esprit de vérité et de sainteté. Et puis le vrai adorateur, quand même, il n'est pas un adorateur à temps partiel, c'est pas possible. Il n'est pas un adorateur à temps partiel, il est un adorateur à temps plein. C'est toute sa vie, toutes ses journées, que le parfum doit monter vers le Seigneur. Alors nous sommes la famille de la foi aussi. Amen. Galates 6,10, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Pour une autre traduction, surtout envers les membres de la famille de la foi. La parole de Dieu met l'accent sur l'importance de la famille de la foi. Faites le bien envers tous et surtout envers la famille de la foi. La famille, elle est vivante par la foi. La famille que nous formons, elle est appelée à vivre une merveilleuse aventure qui va la conduire jusque dans la gloire, jusqu'à paraître devant Dieu, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bon, ça va, c'est pas trop long, ça va aller. Je vais finir bientôt. Alors, on voit là quelques pensées sur la famille, hein, parce que je suis sûr que je suis certain, bien sûr, je suis bien convaincu que je ne suis pas complet là, dans cette affaire, mais c'est quelque pensée. Alors, elle est une famille par le cœur. Seigneur nous a changé, nous a donné un cœur nouveau, dans lequel il veut répandre son amour par le Saint-Esprit, en nous rendant capables d'aimer et d'obéir à son commandement et de porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Vous savez, quand même, quand on y réfléchit un petit peu, le contenant, ce qu'on est, c'est pas grand-chose. Le Saint-Esprit répand l'amour, mais l'amour, c'est la nature même de Dieu. Vous n'avez pas l'impression que ça va déborder, là? C'est ce qui est versé est plus important que le petit bonhomme que je suis, quand même. Ça va déborder. C'est comme ça que je vais arriver à aimer mes ennemis, sinon je peux pas. Parce qu'il va y avoir un débordement autour de moi, tous ceux qui m'entourent, l'amour de Dieu va déborder sur eux. Que le Seigneur nous vienne en aide, amen. Nous avons besoin de manifester ce merveilleux amour de Dieu. Alors dans la famille, quelquefois il y a des petits problèmes. Ça arrive, hein. Il y a des problèmes quelquefois de cours d'école maternelle, c'est dommage, quoi. Quelquefois des petits accrochages, mais je crois que les vrais enfants, ils se pardonnent réciproquement. Ils n'attendent pas que l'autre, quelquefois, vienne leur demander pardon, hein, c'est sûr. Ils pardonnent et même ils sont conscients, quelquefois, ils n'ont pas été parfaits, donc ils vont aussi demander pardon, c'est le pardon réciproque. Et quand deux frères tombent dans les bras l'un de l'autre en se pardonnant, en se demandant pardon, c'est merveilleux. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ils veulent faire dans la famille. Oh, les faux enfants de Dieu, ils ne se pardonnent pas, ils restent dans la rancune toute leur vie, ils sont malheureux. Ils ne sont pas, obligatoirement, de vrais enfants de Dieu, on se pose des questions, quoi. Mais bon, s'ils sont enfants de Dieu, ils sont bien malheureux quand même, c'est pas normal. Dans la famille, c'est le pardon réciproque, gloire au Seigneur. Alors, l'adversaire est à l'œuvre dans cette société. Il voudrait détruire la famille naturelle, on le voit. Il voudra aussi détruire la famille spirituelle, s'y est pris depuis longtemps déjà. Veillons, veillons, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a rien qui vienne empêcher notre union, notre manifestation d'amour les uns envers les autres. Alors la volonté du Père est que ses enfants soient un dans une famille pleinement unie, où le Père Céleste est respecté, adoré, où sa parole fait autorité, où Jésus est glorifié, où le Saint-Esprit n'est pas empêché d'agir. Dans la prière sacerdotale, et on va terminer par là, Jésus prie pour sa famille, en marquant combien il la désire unie. Jean 17, 21, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Et il dit quelque chose après qui est aussi très important, « pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Alors quelquefois on s'afflige, on dit que s'ils ont le cœur dur, les gens du monde. Je crois qu'il faut aussi commencer par renforcer cette union et qu'on compte sur la grâce et sur l'œuvre du Saint-Esprit pour être encore plus unis qu'on l'est, pour que le monde croit que notre Père a envoyé son Fils pour nous sauver. Le but de la famille, c'est aussi de s'accroître. Alors c'est notre grande responsabilité. C'est notre mission, ici-bas, que le Seigneur lui fasse grâce, que nous soyons réellement des témoins à la gloire de Jésus-Christ dans ce monde de perdition. Amen.